Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Aujourd'hui, pour animer cette émission, nous sommes trois. Il y a même François. Je suis accompagné de Reynald.
Bonsoir à tous.
Et de Dominique.
Salut à tous les autres.
Aujourd'hui, un sommaire habituel avec, et une information que tu as teasée sur les réseaux sociaux, apparemment de la musique correcte.
Incroyable.
Alors, on peut tout de suite commencer par l'agenda. Alors, ça fait plusieurs semaines qu'on peut voir ce type d'actualité. Ce sont des concerts qui se passent dans des endroits un peu atypiques généralement, et le tout dans une ambiance assez particulière à la bougie. Ça s'appelle Candlelight. Et si on est sur des concerts, alors plus qu'acoustique, hein, c'est quasiment de la musique classique ici.
Oui, c'est des vrais instruments qui jouent, incroyable. Ouais, c'est pas des synthés ou quoi que ce soit. Non, je crois qu'on en avait déjà parlé, ça fait plusieurs années qu'ils tournent. Bon, j'imagine que l'année dernière, ils n'ont pas dû faire beaucoup de concerts avec la crise sanitaire. Donc là, ça revient, ils font le tour de la France. Oui, Candlelight, c'est ça. Et là, par exemple, c'est sur le thème, si je ne dis pas de bêtises, ça peut être sur le thème des films, des musiques de films. Donc ils jouent des musiques de films. Mais c'est vraiment, c'est plus que la qualité de la musique et des instruments et des musiciens, c'est plus l'ambiance, effectivement. On a vraiment l'impression d'être dans un d'avoir presque un concert chez soi. Sauf qu'on est, je ne sais pas, dans une cathédrale ou dans une grande salle de concert.
Ah, ici, ils vont reprendre Ennio Morricone et même des choses un peu plus connues en France, telles qu'Amélie Poulain, par exemple, la BO, qui avait quand même assez bien fonctionné. Alors, ça sera le 22 octobre de cette année, sous le chapiteau de Lille. Il y a encore possible de réserver, hein, ça coûte 35 euros. C'est, voilà, une expérience à faire. Alors c'est vrai que d'habitude, on est plus dans des chansons à la Vivaldi, etc. Ici, ça change un peu, ça plaira peut-être plus.
Oui, le but, c'est d'amener un nouveau type de public à ce genre de musique.
Et ça risque de fonctionner. On va partir en Belgique.
À noter aussi, justement, pour le Candlelight, il y a aussi des concerts pour les enfants avec des musiques un peu plus appropriées.
De dessins animés.
Des dessins animés si comme pas fait des Jasmine et Aladdin et compagnie. Ouais.
Des musiques de films de Ghibli à un moment. Et vraiment, ils changent de thème à chaque fois. J'imagine qu'il y a même peut-être plusieurs orchestres qui tournent, qui font des festivals.
Pour ceux qui en ont marre d'entendre ce rêve bleu chanté par leur enfant, n'y allez pas, mais
n'y allez pas si avec vos enfants.
Aussi. Mais sinon, très belle musique.
Alors maintenant, c'est la Reine des Neiges, hein, c'est plus ce rêve bleu. Hein. Alors, tu parlais de Ghibli, c'est vrai que Joe Hisaishi avait fait une petite tournée comme ça, où il avait réuni un orchestre assez massif. Il avait fait des concerts au Japon, même à Paris. Donc c'était assez incroyable, surtout pour les fans des films animés.
Des films, voilà, tous les films pour lesquels il a fait des musiques. Ouais.
Alors ici, c'est plus un medley qu'ils vont proposer, mais ça risque d'être sympathique. Donc ça s'appelle Candlelight, et ça tourne un peu partout. Donc là, il y a une version à Lille, mais bon, si vous baladez, ça tombe en vacances, vous allez tomber sur des concerts à côté. On part à Bruxelles, en Belgique, pour parler. Alors c'est un peu en relation avec des émissions précédentes, puisqu'on parle assez régulièrement maintenant de Lego, puisque ça tombe dans l'actualité. Et ici, c'est un parc à thème qui va s'installer à Bruxelles en 2022, apparemment. Donc on n'a pas encore plus d'infos, mais ça reste à surveiller.
Je crois qu'il existe déjà, enfin depuis des années, un parc Legoland. Je ne sais plus si c'est aux Pays-Bas ou en Suède, hein, je crois que c'est le pays d'origine des Lego.
De mémoire, ça me dit Pays-Bas, mais généralement, je ne suis plus en état de me souvenir quoi que ce soit quand je reviens. Donc, ouais.
Donc là, c'est tout près de chez nous, à Bruxelles. Bon, on a le temps, ça ne sera pas pour tout de suite, donc on a le temps d'en reparler. C'est à suivre. Mm-hmm.
Et apparemment, ils vont construire ça sur un ancien site de MediaMarkt. Donc, ils ont déjà trouvé
l'endroit.
Ouais, c'est ça. Et une surface de 3000 m² pour les passionnés de Lego. Alors, une autre actualité, alors vu qu'on parle de musique, ici, c'est pas forcément des concerts qui vont se passer, c'est plus des concerts qui s'annulent. Alors, on dit Kinve, on dit pas Kin 5, hein, rassure-moi.
Non, c'est Kinve. Oui, c'est pas un concert annulé, mais Kinve avait fait parler de lui parce que en 2020, c'était avant la crise sanitaire, je crois. Il avait fait des concerts et en fait, ça marchait tellement pas, sa tournée, qu'il avait été obligé d'annuler
Mais c'est surtout l'un des rares à dire, écoutez, il n'y a pas assez de gens, j'annule.
Oui, c'est ça, parce qu'il y en a beaucoup qui depuis ont profité. Ouais, c'est la crise sanitaire, les gens... Non, non, c'est parce que ta musique plaît à personne, mon gars, ou que tout le monde t'a oublié. Mais
casser le bras ou la jambe.
Bah, c'est comme beaucoup d'artistes qui prévoient des tournées dans plein de stades, et ça, dans de salles, etc. Et il n'y a personne qui... Enfin, personne. Hein. Y avait, les jauges n'étaient pas assez élevées, donc il a dû annuler, il l'a avoué. Et là, il revient, mais il n'a pas peur. Donc, pour le 14 juillet, à Bruy-la-Bichère, cette fois, c'est un concert gratuit. Il ne prend pas de risque. Quoique, si vraiment personne ne vient alors que c'est gratuit, là, il peut, je crois qu'il peut remettre sa carrière en question. Il y a rien que c'est qu'il y a un problème. Alors que les gens cherchent Kinvé et Kin 5, mais non.
Alors, il n'est pas à Paris ou à Lille, hein, non, il est à Bruy-la-Bichère. Donc...
C'est très bien, Bruy-la-Bichère.
Non, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je dis que, voilà, pour faire un concert gratuit là-bas, c'est quelquefois des petits indices quant aux actualités du chanteur. Et on a pu le voir, notamment sur des plateformes de caméo. Alors, c'est pas caméo, c'est où il fait des dédicaces. Vous pouvez, pour une certaine somme, avoir une dédicace de vos fans préférés.
Est-ce qu'il a encore des fans ?
On en avait parlé, puisque cette plateforme s'ouvrait avec Francky Vincent, comme l'une des plus grandes stars.
Les plus grandes vedettes de la chanson française.
Écoute, Francky Vincent a décalé d'une petite case vers la droite pour laisser place à Kinvé, qui est la star de cette plateforme. Les plus grandes stars sont...
C'est-à-dire qu'il touche plus d'argent en faisant des dédicaces qu'en faisant des concerts. Pose-toi des questions, Kinvé. Je ne sais pas quel est son vrai... J'imagine que c'est pas Kin son prénom et V son nom. Hein. C'est un garçon très sympathique, au demeurant.
Oui, oui. Bah, il vient de la télé-réalité, hein, je pense.
Je ne suis même pas sûr.
Bon, écoute... Mais bon. On sent les experts du domaine.
De Kinvé, oui.
Alors... On a parlé de musique, je vous propose tout de suite d'ouvrir avec un petit morceau de musique. Ici, on va vous parler de Gaspard Hodge, qui fait partie du duo Justice. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est celui qui a la moustache. Et il s'est lancé cette année en solo. Alors, Dom, t'écoutes en preview le...
Exactement. je tease.
L'album. Alors, il sort un album, cette fois-ci, instrumental. Or, vous reconnaîtrez peut-être quelques influences à la Jean-Michel Jarre, Dominique. Oui, je vois que t'étais...
On a eu l'expectative dans les yeux de... What ? Qu'est-ce qu'il dit ?
Et il plonge, alors ici, il nous promet une escapade dans un monde cinématographique, ce qui est toujours assez dur à réaliser à la radio et en musique. Alors, on va s'écouter une chanson qui s'appelle Europa.
Pas une chanson, il n'y a pas de parole. Donc, c'est une musique.
Une musique, voilà. Un morceau de qualité. De Gaspard Auger. Gaspard Auger avec l'album Escapade. Alors c'est vrai qu'ici on se plonge un peu dans...
J'étais assez surpris, ça fait vraiment très ambiance cinéma, ça rappelle des vieux films des années 70.
On sent l'influence Giorgio Moroder, Ennio Morricone, Vladimir Cosma.
Xavier de Roubaix, tous ces grands compositeurs de musique. Mais, et c'est paru chez Headbanger Records, qui était, enfin, qui est toujours l'éditeur de Justice, mais aussi Laurent Garnier, Cassius et compagnie, enfin Quentin Dupieux, tous les...
Alors Justice, puisque c'est son groupe, et là il part un peu dans une aventure solo, où il avoue clairement qu'il se fait plaisir, et voilà, ça sent...
Son autre collègue de Justice, qui s'appelle Xavier Deronet, lui, il est juste producteur pour l'instant, il n'est apparemment pas encore de projet solo de musique à lui, quoi. Il produit d'autres groupes.
Alors du coup, ça me fait penser... Les Daft Punk se sont séparés. Est-ce qu'ils vont faire des choses en solo ?
Forcément. Forcément.
Tu crois ? Ouais. Parce qu'ils ont travaillé chacun de leur côté avec différents artistes. Alors, Plastic Bertrand n'a pas avoué qu'il avait été aidé, bien sûr, de l'un des Daft Punk. Mais voilà.
Tu parles de Plastic Bertrand, donc un grand artiste belge. Ça me fait penser à un autre artiste belge. C'est vrai qu'on avait, on avait prévu d'en parler. Un artiste qui a annoncé sa retraite. Le grand Jojo.
Exact.
Le grand Jojo, cette magnifique artiste belge qui composait des chansons immémorables.
Alors quand on annonce comme ça qu'on est un artiste, surtout dans le domaine de la musique, et qu'on annonce sa retraite, c'est qu'on va quand même signer un dernier album avant de partir.
Alors justement, il travaille en secret avec un grand DJ. Est-ce que ça serait un des Daft Punk
ou...
On lance des perches comme ça, mais je me dis, je sais pas.
Est-ce que tu n'as pas peur de te retrouver avec un David Guetta ?
On a parlé de grand DJ.
C'est tout le mal qu'on le souhaite. Hein. J'avoue qu'un album du grand Jojo produit par David Guetta, je demande à voir. Hein. Je signe.
Bob Sinclair, je ne sais pas.
Pas de problème, je signe. Direct.
Allez, on va parler un peu de choses qui se passent cette fois-ci dans l'agenda. Alors, c'est une console qu'on avait peut-être déjà citée, ou en tout cas qui était...
Elle
était dans notre réserve à news depuis un petit moment.
Ben là, c'est d'actualité parce que le projet va être lancé officiellement le 9 juillet. Il y a quelque chose comme ça. C'est la Playdate. Donc, c'est une bande de jeunes qui sont réunis. Et apparemment, ils ont des imprimantes 3D. Ils savent jouer avec. Donc, c'est un projet, c'est une console vraiment, lo-fi, comme on pourrait dire en musique. C'est basse résolution. Il y a un petit écran noir et blanc. Ça ressemble un peu à une espèce de Game Boy, mais plus coloré, plate, vachement assez design, mais un peu à l'ancienne, vintage.
Plus coloré, pas sur l'écran. Hein. L'écran est sur du noir gris, blanc, c'est tout.
C'est ça.
Si t'as toujours trois...
le site officiel, c'est play.det. Je l'écoute, donc c'est ça. Les précommandes commencent en juillet. Elle sera au prix de $179, apparemment, pour une console en noir et blanc comme ça. C'est assez sympa. Et il y aura 24 jeux. Alors, ils vont sortir deux jeux gratuits, hein, qui seront que les utilisateurs et les possesseurs de la console pourront télécharger. Deux jeux par semaine pendant 12 semaines, donc il y aura 24 jeux, en tout cas pendant la première saison. Il n'y a que ces gens-là qui pourront y jouer. Je ne sais pas si on pourra mettre d'autres jeux. Il y aura un accessoire qui est prévu apparemment, qui servira de porte-crayon, de taille-crayon aussi. Et on pourrait écouter de la musique avec et tout. Mais la petite particularité de cette console, c'est qu'elle a une manivelle. Et là, il fallait oser. C'est pas pour la démarrer, hein, comme c'est les Peugeot qu'il fallait démarrer à l'époque.
Les gramophones,
oui, qu'il fallait.
Certaines lampes où tu devais tourner pour avoir la lumière.
Oui, c'est toujours même des radios pour quand t'as pas de pile dessus, en plein désert, tu actives.
Ah non, ça fait pas partie du pour la faire fonctionner. Non, c'est
ça va être.
Ça fait partie du gameplay.
Parce que sur la console, il y a deux boutons. Bouton d'action, bouton sauter, ça dépend des jeux, une croix de direction et une manivelle sur le côté qui va servir dans certains jeux. C'est-à-dire, par exemple, il y a des jeux où t'as un personnage qui avance sur des plateformes et quand tu actionnes la manivelle, tu peux soit le faire accélérer, soit au contraire revenir en arrière. Enfin, ça va faire partie de, pour certains jeux, ça va être une interface. Donc, fallait oser, pourquoi pas.
Alors, la console portable est produite par le développeur Panic. Alors, c'est un développeur qui est spécialisé généralement sur les jeux Mac. Ça fait bizarre. Alors, application Mac, allez, on va fâcher personne. Et il s'est notamment démarqué avec Untitled Goose Game, un jeu avec une oie.
Qui fait un carton. Voilà, un jour, on dirige une oie. Ben voilà, et ça a marché.
Ça faisait un peu un style... Alors, c'était un style 2D assez simpliste, mais ça faisait penser au jeu The Goat.
Goat Simulator. Voilà.
Je pense que Goat Simulator a ouvert quand même le monde du jeu vidéo à quelque chose dont il n'était pas forcément prêt à l'époque. Les jeux what the fuck. Et après, on a vu des jeux... Est-ce que vous vous souvenez de cet homme qui avait une sorte de boule en bas du corps et une pioche?
Ah oui.
Et c'était un jeu qui avait été développé exceptionnellement pour les Twitchers, pour qu'ils ragent, justement.
Tout à fait. C'était un jeu super difficile, ouais.
Et parce que ça jouait sur une mécanique et de poids de gravité par rapport à ton personnage. Et le but, c'était de monter le plus haut possible. Et la seule façon, c'était de pouvoir bouger tes bras avec ta souris. Et de cliquer pour prendre le point d'appui avec le bout
l'interaction L'interaction est minimale, quoi. Le moins de commandes possible. La simplicité, t'as qu'une action pratiquement à faire.
Il faut les jouer sur ton élan, donc ton mouvement de souris, et tu rageais, mais
très
rapidement.
Et tu joues même pas pour le jeu lui-même, mais plus pour les sensations que ça te propose. Enfin, c'est un truc de fou. Il y a des jeux comme ça, on sait pas. C'est impossible, quand on le présente le jeu, tu vas dire, mais non, ou la console, ou peu importe, mais non, ça marchera pas, personne n'est intéressé, etc. Et puis ça cartonne, et tu sais pas pourquoi, et tu sauras jamais pourquoi, c'est ça qui est bien. Donc là, c'est sur le site play.date, donc début juillet, je crois que c'est le 9, mais je ne suis pas sûr, les précommandes vont pouvoir commencer.
Alors on parle ici de 24 jeux uniques.
C'est ça.
Donc vous achetez la console et vous n'avez pas plus à l'intérieur, vous n'aurez pas de DLC ou de nouveaux jeux. Bon, ça sera sympathique quand même. Alors,
ça change des consoles Next Generation Con.
C'est vrai. Alors, autre chose qui est dans l'agenda, et ça, Dominique, je pense que ça te fait plaisir. Toi, le spécialiste des films un peu décalés, pour être gentil, je parle de la Paris Shark Fest.
Absolument. Festival qu'on avait découvert l'année dernière. C'était au mois de septembre, la première édition. Exactement. Et c'était la première édition. Et voilà, donc on sait que les requins, surtout au cinéma, on le vend en poupe. Ça se dit pour des requins? Oui.
Et maintenant ils volent.
Maintenant ils volent, surtout quand ils volent.
Ils volent devant la poupe d'un bateau.
Et tout. On connaît tous les Dents de la Mer, etc. Enfin, il y a eu des tas de films sur les requins, mais avec des vrais requins. Et puis, je crois que le premier, c'était peut-être Sharknado qui est sorti, je ne sais plus. Les mecs se sont dit, voilà, sûrement après une soirée bourrée, on va faire un film où tu as des requins qui volent, qui sont en tornade et qui volent. Enfin, c'était n'importe quoi. Alors, et puis, il a commencé à avoir des films avec des requins géants qui se battent contre des tortues géantes, enfin j'imagine, mais ça existe peut-être, avec des requins robots. Et il y en a plein, il y en a qui sortent chaque année et ça coûte pas cher. Ils engagent des vieux acteurs sur leur tour qui s'éclatent. Et ça marche, ces films cartonnent, au point qu'il y a des gens qui ont carrément créé le Paris Shark Fest, le premier festival au monde qui parle uniquement de requins et de films de requins. Mais il n'y a pas que les films de fiction, il y a aussi des documentaires, il y a des gens, des scientifiques qui viennent parler de requins.
Alors, est-ce que ça n'a pas débuté par un film qui était un peu raté et ils se sont dit, tiens, on va rajouter une tornade avec des requins dedans?
Je ne sais pas. Ça suit. Donc, le parisharkfest.com pour les informations. Donc, le prochain aura lieu aussi au mois de septembre. Et là, c'est parce que j'ai vu, parce que récemment, ils ont lancé un petit appel aux dons, aux souscriptions pour leur aider, leur filer un coup de main. Et apparemment, il y aura en exclusivité, pas des anciens films bien sûr, mais il y aura un nouveau nanar de requin en exclusivité mondiale pour cette deuxième édition du Paris Shark Fest aux alentours du 18 septembre.
Alors c'est ça, tout se passe au Club de l'Étoile.
C'est ça, c'est au même cinéma que la dernière fois, je pense. Donc on en reparlera un petit peu avant, de toute façon, c'est sûr, mais là...
L'affiche a été réalisée par le designer français Fortifem et on va suivre ça de très près. Je pense qu'on réservera peut-être un voyage à Paris, histoire d'eux. Hein.
Pourquoi pas. Donc là, effectivement, sur le site parisharkfest.com, il y a un onglet tous partenaires, il y a la présentation, la programmation, peut-être pas déjà la programmation du prochain festival, il y a déjà quelques invités, mais il y a aussi un onglet tous partenaires dans lequel on peut participer et faire un don, et on reçoit même des cartes postales, des t-shirts, des posters en échange, Ouais.
On enchaîne avec... Cette fois-ci, un contenu pas film, mais plus radio, avec la radio des jeux, qu'on a déjà cité, je pense.
Ah oui, parce que c'est un podcast qui existe depuis, alors je crois qu'ils en sont à la 8e saison. Alors, il y a eu des saisons d'interruption, donc ça fait un peu plus de un peu plus de 10 ans qu'ils existent. L'équipe a un petit peu changé entre deux. C'est un podcast. Chaque épisode doit durer au moins 2, 3, voire 4 heures.
Les derniers actuellement prennent pratiquement 4h30 à 5h30.
C'est ça. À chaque fois, ils reçoivent un ou plusieurs invités et ils font vraiment, ils prennent le temps de discuter, de refaire leur parcours, de parler de l'actualité du jeu. C'est super intéressant. On ne sent pas les 3-4 heures passées. C'est vraiment passionnant ce qu'ils racontent à chaque fois. En plus, les gens qui l'organisent, c'est des gens qui s'y connaissent vraiment bien. Et donc le nouvel épisode devrait être disponible ces jours-ci quoi, sur le site laradiodesjeux.org, c'est tout simple, ça s'écrit comme ça se prononce, et parce que le dernier épisode date de février 2020. Donc vous voyez, ils prennent leur temps pour faire, mais ils font les choses bien.
C'est le temps de l'éditer sur Audacity.
Ouais, les invités cet épisode, c'est l'éditeur Catch Up Games. À chaque fois, c'est soit un éditeur, ils ont fait des émissions avec des gens qui tiennent des boutiques de jeux. Il y a des fois, ils invitent des créateurs de jeux, des illustrateurs, etc. Mais de toute façon, quels que soient les invités, c'est passionnant à écouter. Et voilà. Mais et juste pour signaler qu'entre deux, certains des membres de l'équipe ont fait un autre podcast qui s'appelle Playback, qu'on peut retrouver notamment sur la plateforme ocha.co, Playback, et où je crois qu'il y a 5-6 épisodes qui durent un petit peu moins, ils durent à peu près une heure, et à chaque fois ils reviennent sur, ils choisissent une année, par exemple 2007 ou 2020, et ils parlent de l'actualité du jeu de plateau, du jeu de société de cette année-là. Ils racontent leurs expériences, à quoi ils jouaient à cette époque-là, quels étaient les jeux les plus vendus, les jeux qui sont sortis, mais aussi les jeux qui ont eu des récompenses cette année, le Spiel, l'As d'Or, etc. Et c'est toujours intéressant de faire un petit flashback comme ça sur une année ludique. C'est intéressant comme principe.
En parlant de flashback, justement, j'ai réécouté cette semaine, lors d'une après-midi au taf, un épisode... Bah, oui, il faut bien que je travaille. Un épisode datant de septembre 2018, dont l'invité était Frédéric Henry, pour ceux qui le connaissent, qui est une personnalité du monde ludique. Et sur les 4 heures de l'émission, vraiment, il y avait les 9 dixièmes qui étaient encore d'actualité de ce qu'il disait.
Oui, ça parlait beaucoup de Kickstarter, etc.
Des Kickstarter, je me souviens à cette émission. C'était une des premières...
C'était super passionnant.
C'était une des premières fois qu'une société annonçait ouvertement qu'elle ne passerait plus par les boutiques physiques et qu'elle ne passerait que du Kickstarter.
Ouais.
Et qu'après... Ça s'arrêtait là.
Ouais, ça n'empêche pas de faire les deux.
Non, bien
non,
sûr.
Non, mais là, elle disait, on ne fera plus de passage en boutique.
Alors, pour quelle raison?
Là, je ne sais pas. C'est indiscret.
Là, il faut aller écouter l'épisode sur la radio des jeux.org. Vous avez les 8 saisons. Alors, le nombre d'épisodes par saison est variable, quoi. Vous avez les 8 saisons de la radio des jeux. C'est ça même, en réécoutant les premières saisons, c'est super intéressant. Tous les invités sont intéressants. On apprend plein de choses sur le monde du jeu de plateau et du jeu de société.
Alors, j'en profite, puisqu'on parle ici de podcast. David Marmignon, qui est nos collaborateurs sur Radio Campus, a lancé lui également son podcast qui s'appelle Pop Arthur. Donc voilà, ça parlait de jeux vidéo, ça parle de Star Wars, ça parle de télé-réalité. Voilà, donc ça colle assez bien à ce qu'on aime également. Donc n'hésitez pas, Pop Arthur, vous trouvez ça sur les réseaux sociaux. Et du coup, la radio des jeux.
La radio, comment il s'appelle ? José Arthur, un animateur de France Inter, si je n'ai pas de bêtises, qui faisait une émission qui s'appelle Le Pop Club. C'est peut-être une référence à ça.
Alors, est-ce qu'on ne se ferait pas une autre petite découverte musicale ? Alors, j'ai récupéré donc un autre album qui vient de sortir, puisque là, on dépile ces albums qu'on n'a pas pu déballer depuis quelques jours, quelques semaines. Je vous propose d'écouter un peu de électro, un collectif d'électro français qui s'appelle Bon Entendeur, et qui a sorti un nouvel album. Alors je vous propose, alors parce que nous on adore les reprises, mais on adore également les feats.
Les collaborations.
Et surtout, les feats de qualité.
Surtout le grand Jojo et David Guetta. Tout ça.
Ici, je vous propose d'écouter Motel Show, qui est donc une collaboration avec Pierre Bachelet. Alors je ne suis pas sûr qu'il soit au courant.
Oui, surtout dans sa tombe. Le
là où est-ce qu'il est, ça va être chaud.
Il risque pas.
Allez, ça c'est
bon. Alors ils sont plein gré, c'est ça.
Voilà, Bon Entendeur versus Pierre Bachelet avec The Motel Show. Thank you. Vous avez bien sûr reconnu Pierre Bachelet dans ce morceau de Bon Entendeur.
C'est Bon Entendeur versus Pierre Bachelet. Alors. C'est assez bizarre.
Bah, en fait, ils ont mis le micro au niveau de la tombe, ils ont attendu, ils ont enregistré, et puis ils l'ont. Je vois que ça, parce que sinon, c'est un pur foutage de gueule.
Alors, vous pourrez les retrouver donc, le 8 août, durant le cadre du Festival Ronquière en Belgique. C'est pas très loin. Alors, il y a plein d'autres dates également.
Ils ont un site bonentendeur.com, tout simplement, pour avoir leurs dates et des extraits de musique, etc. Ils vendent même des fringues, waouh.
Bon, ça change un peu de la musique qu'on passe d'habitude, donc on se fait plaisir. Alors, on va continuer un peu dans l'agenda. Ici, on va parler d'un jeu vidéo qui... Alors, est-ce qu'on a encore besoin de le détailler ? C'est Final Fantasy qui va sortir. Alors, attention, ils vont innover. Dominique, Reynald, préparez-vous. Ils vont ressortir une édition Pixel Remaster. Voilà, voilà.
Voilà, voilà, voilà.
Voilà. Voilà, que dire de plus, à part... on a des liens d'Abandonware qui traînent.
En fait, on parle bien des six premiers Final Fantasy, donc ceux qui étaient sortis sur console à l'époque, donc NES, Game Boy, etc., Super NES et compagnie. Parce qu'à partir du 7, c'est passé sur PlayStation et compagnie. Ensuite, c'est ressorti sur PC, alors pas seulement sur émulateur, mais sur Steam, dans des versions remasterisées sur les nouvelles consoles. Même sur, vous voyez, c'est ça, sur PC, on peut y jouer aussi dans des versions augmentées et compagnie. Même sur Android, enfin, sur téléphone, Android, iPhone, on peut y jouer aussi dans des versions un peu modifiées.
Il y a eu des versions modifiées, effectivement. Alors ici, on ne veut pas trop toucher... la mécanique du jeu, puisque certains jeux avaient été refaits. Ici, on vous promet juste une amélioration des graphismes, une remasterisation de la bande originale, un gameplay amélioré, alors en changeant l'interface, hein, puisque Final Fantasy, vous allez scroller dans un menu bleu. Voilà.
Oui, ça reste un menu bleu en pixels.
Et... attention, c'est là que ça va devenir un peu plus important. Des modifications dans le bestiaire. De nouvelles créatures qui feront apparition dans ces jeux. Alors, ça, il y a déjà beaucoup de pubs à ce niveau-là, puisque le 28 juillet à 19h, donc préparez-vous, hein, calez-vous sur Steam confortablement pour payer la modique somme de 18€ pour les trois premiers opus 1, 2 et 3 de la trilogie NES.
Parce qu'il y a les trois premiers, donc le 1, 2, 3, c'est la version c'est sur NES. Donc ils coûtent chacun 11,99€. Et les trois suivants qui sortiront plus tard pour 17,99€. Mais tu peux tout acheter pour 74,82€. Au lieu de 95. Il faut en profiter. Il y a une magnifique promo comme ça. En sachant qu'ils sont. Allez, attention, hein, le méga. Tu as pour chacun des jeux, si tu les achètes indépendamment, tu as la bande originale, enfin la soundtrack offerte.
Et un fond d'écran.
Voilà. J'ai vu sur Steam effectivement que c'était déjà présent, ou déjà commandé, mais j'ai pas réussi à voir juste la musique. Sans là, j'étais obligé d'acheter le jeu. Et il y a aussi des fonds d'écran, bien sûr. Enfin, c'est...
Bon, je pense qu'on a peut-être tous un Final Fantasy préféré différent. Pour ma part, sur Android, ils avaient ressorti un remaster du 5, qui avait été une refonte complète du système graphique. C'est vrai que j'aurais préféré, par exemple, juste une amélioration au niveau des pixels. Alors tu vas me dire, un pixel, ça reste un pixel. Mais bon, c'est vrai que... Est-ce qu'on peut, dans ce type de jeu, rajouter un peu plus de contenu ?
Ils sont tellement parfaits, ces jeux. Pourquoi y toucher ? Moi, je comprends pas.
C'est une grande question.
En fait, la trame scénaristique est tellement déjà énorme dans ce type de jeu. Les rebondissements sont énormes. Enfin, c'est des péplums au niveu ludique et il n'y a rien à rajouter.
C'est clairement pour faire du fric. Quoi. C'est tout à fait. Ils ont remasterisé. Quoi. Ils ont pris un nouvel orchestre des Balkans qui ne leur a coûté rien, qu'ils ont payé en McDo et puis pour rejouer la musique. Je sais pas. Enfin, c'est...
Et à la rigueur, tu vois,
n'achetez pas ça, les gens. Quoi.
Voilà. Le fait qu'ils ont rajouté des monstres, c'est pourquoi ? C'est pour éviter le swap color des monstres déjà existants, mais c'est ce qui fait le...
Une nouvelle, un truc exclusif et tout, mais c'est pour que les collectionnistes, complétionnistes, soient obligés de l'acheter, c'est tout, quoi. Et il y en a qui achètent tout, la moindre figurine, le moindre truc, le moindre paquet de popcorn avec un truc Final Fantasy, ils le prennent, quoi. Je crois que le dernier en date, ça doit être le 14-15, je ne sais plus. Enfin, je ne suis plus au niveau des Final Fantasy.
Le dernier en date, c'est surtout le remaster de Final Fantasy VII
Oui,
alors c'est le même dernier plus un sorti remaster, en date,
effectivement, mais je parlais du dernier numéro, quoi. Ouais. Le dernier numéro, ça
de 15. Lors de la Paris Games Week de 2019, je pense, qu'il y avait les premiers teasers du jeu avec. Voilà, ça a quand même cartonné au niveau des ventes. Alors, est-ce que ça leur a coûté cher de refaire une refonte comme ça?
À moins que ce soit quelqu'un qui ait juste récupéré la licence ou les. Juste pendant quelques mois, le temps de ressortir. Enfin, je sais pas. Enfin, je vois pas l'intérêt, quoi.
Je pense que ça leur a pas coûté grand chose et ça va leur rapporter quand même pas mal. Voilà.
Par contre, juste en regardant les images qui accompagnent tous les, on va dire tous les sujets de discussion que tu peux tourner autour, à part oui, c'est peut-être légèrement plus beau qu'à ton époque sur la Super NES, mais tous les menus que tu peux voir, bah, c'est exactement pareil.
C'est ça. Par contre, oui, c'est vrai qu'ils ont utilisé, par exemple, pour la musique, c'est le compositeur original, donc Nobuo Uematsu, qui a. Alors attention, il a supervisé. Ça peut vouloir dire n'importe quoi. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'a fait dans son coin et le gars, il a juste écouté. Ouais, ça ressemble. Enfin, il a peut-être passé 30 secondes dans les studios et c'est tout. Il a serré la main des gens, il est reparti. Il a supervisé, il dit, il a goûté le café de la cafetière. Ouais, le café, ok, c'est bon, je donne mon. C'est tout, quoi.
J'allais dire, il a mis le tampon sur le papier, mais bon, il a juste fait un petit clic.
Il a attendu
que
quelqu'un mette le tampon sur son chèque et il est reparti. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire, donc c'est très louche. Pour moi, c'est inutile ce genre de choses. Il y a déjà plein de façons de jouer à plein de versions de tous les Final Fantasy, quelle que soit la plateforme. Franchement, c'est.
Maintenant, c'est des jeux qui ont extrêmement mal vieilli et je pense que même remasterisés, ils resteront assez moches.
Oui et non, hein, parce que si t'aimes bien ce genre de jeu, la 2D, comme je disais, les monstres swap color, le fait que t'as des monstres qui pop aléatoirement, tout ça, c'est une façon de jouer et si t'aimes bien, il n'y a pas de souci.
Moi, j'ai testé, moi, mon préféré, c'est le 6, enfin, j'avais tous un peu plus ou moins testé. J'avais testé des versions remasterisées sur Android et ce genre de choses. Et j'avais testé aussi des versions sur émulateur. Je préfère quand même jouer à la vieille version fidèle à l'original sur émulateur quand même, quoi.
C'est ce que j'ai fait sur Mega Drive de l'époque, parce que là on parle de la Super NES, mais sur les Phantasy Star qui sortaient sur Mega Drive, je les ai retrouvés sur émulateur et je m'éclate dessus.
À l'époque, quand j'avais testé Final Fantasy V sur émulateur, le PC n'était pas assez puissant.
Ah ouais.
Ce qui faisait que je ne voyais pas certaines couches de texture. Et il y a des niveaux où il y avait du brouillard où je les voyais en noir. Donc j'ai fait à l'aveugle un niveau complet.
Mon Dieu.
Ça rappelle de très bons souvenirs, mais malheureusement, moi hardcore. Je suis. Alors, le prix va bien sûr me faire très mal, mais moi je serais. Ça va peut-être me donner envie de rejouer comme ça à un vieil opus. Alors, pas forcément à l'acheter celui-là, mais du coup, même le fait de reparler de Final Fantasy V, ou demain, s'ils ressortent un remix du 9, par exemple, je suis le premier à aller à la caisse.
Il faut voir ce qu'ils ont mis dedans, quoi.
Ouais. Peu importe, les gens s'en foutent, les gens veulent revivre. Ils ont bien ressorti World of Warcraft classique. Les gens ont repayé le jeu en repayant l'abonnement.
Non, ils n'ont pas repayé le jeu, ouais, juste l'abonnement, attention. Oui, t'as juste repayé ton abonnement. Et encore, si tu jouais encore au World of Warcraft actuel, tu n'avais pas besoin de repayer l'abonnement. Tu pouvais jouer au classique gratuitement, je veux dire. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas non plus. T'as pas repayé la même chose. T'as pas payé quelque chose que tu avais déjà acheté. Ça va.
C'était juste pour rattraper des vieux joueurs qui avaient arrêté entre temps et qui se sont dit tiens, je vais revenir aux sources et puis.
Reinstall Battle.net, reviens chez nous.
Exactement.
Allez, on va s'écouter un peu de musique. Alors, on l'avait déjà cité, alors peut-être pas dans l'émission Heureusement en France, mais dans nos anciens podcasts, Another Podcast. Hein. D'ailleurs, vous pouvez retrouver tous les podcasts sur le site anotherpodcast.fr ou bien sûr sur le site de Radio Campus Lille, puisque vous avez une super interface. En cliquant sur programme, en choisissant votre jour, vous pouvez voir jusqu'à 6.
Diable. Elle est remasterisée et tout.
11,95 par mois.
Voilà.
On va s'écouter donc Guédré. Alors Guédré, c'est un style assez particulier de chanson française.
Ça veut dire qu'elle est chanteuse et humoriste. Ça résume un peu le personnage.
Et elle était connue notamment en faisant les premières parties de Laurent Baffy sur ses spectacles. Voilà, pour vous situer un peu l'humour.
C'est un personnage incroyable, quoi. Déjà, j'ai appris qu'elle était née en Lituanie. Elle n'est même pas d'origine lituanienne. Elle est née en Lituanie, je crois qu'elle est en France vers l'âge de 15 ans. Mais elle a toujours été complètement décalée, quoi. Genre, son premier album s'appelle « Mon premier album ». Ensuite, elle a sorti un CD-DVD de ce spectacle, c'est « Mon premier CD-DVD ». Mais c'est absolument n'importe quoi. Et là, c'est sorti un album qui s'appelait genre mon album Panini. Il y avait pas de musique, il y avait que des vignettes autocollantes à gratter et tu pouvais scanner un code pour avoir ses musiques en ligne. Enfin, elle est complètement folle, cette fille.
Alors, cet album s'appelle Chansons romantiques au piano. Alors, ici, on ne parle pas du piano à queue, hein, on parle du petit piano.
My First Sony, un truc comme ça.
Le bon tympan.
Alors, je vais être honnête avec vous. J'ai pas réussi à sélectionner certains morceaux. Je me suis dit, c'est quand même assez spécial.
Elle est très spéciale.
J'en ai pris un assez soft. Et peut-être qu'en fin d'émission, je vous en mettrai un peu plus corsé. On va s'écouter Des Emplettes de Guédré.
Océans pour mettre nos ordures dedans. Quand il y aura plus de pétrole, mais comment qu'on va faire pour faire ramener nos petites bricoles de l'autre bout de la terre? On sera peut-être obligé de ne plus rien acheter. C'est horrible, mais comment faire sans nouvelles affaires? La planète, on lui veut pas de mal. On veut juste faire des emplettes. Bien normal, on veut des trucs et des machins, ça nous rend heureux. Nous les objets qui servent à rien, ça nous rend joyeux. Mais imagine un jour, y a plus assez d'eau pour même en cycle court laver tous mes petits hauts. Imagine y en a plus assez pour faire pousser du coton. Comment qu'on va trouver des manteaux de mi-saison? Imagine on est amené à réparer nos affaires, alors qu'en racheter ça coûte même pas plus cher. La planète, on lui veut pas de mal, on veut juste faire des emplettes, et c'est bien normal. On veut des trucs et des machins, ça nous rend heureux. Nous les objets qui servent à rien, ça nous rend joyeux. Moi parfois j'ai peur qu'un jour au Bangladesh, ils se disent que 10 centimes de l'heure, c'est vraiment trop la dèche. Qu'ils veuillent être payés comme de vrais humains. Mais alors comment acheter des t-shirts à 3,20€? Il faut qu'on en profite pour acheter des choses, qu'on achète tout et vite avant que tout explose. La planète, on lui veut pas de mal, on veut juste faire des emplettes, et c'est bien normal. On veut des trucs et des machins, ça nous rend heureux. Les objets, ça sert pas à rien, ça sert à rendre joyeux.
C'était Guédré avec ses chansons romantiques au piano et ce morceau épique Des Emplettes. On sent la qualité artistique et la qualité des instruments hein, derrière.
Voilà. Je pense qu'elle est à voir sur scène.
C'est ça. Et je pense pas. Je sais même pas si elle osera ramener le petit piano.
Déjà, ses décors de scène sont assez farfelus, on va dire ça comme ça.
Pour citer d'autres titres d'albums, donc ensuite, elle a fait mon premier best-of, puis mon premier album vendu dans les vrais magasins, puis mon premier album sorti au Japon, puis mon premier album avec d'autres instruments que juste la guitare. Et ça continue, ça continue. C'est terrible.
Voilà, bah on s'ennuie pas. Alors peut-être qu'on fera un autre morceau découvert éventuellement. Alors, vu qu'on parle des emplettes, il faut savoir que les plateformes qui vous envoient tous ces produits, hein, alors est-ce qu'il faut citer la plateforme de Jeff Bezos? Non, pas besoin. La TVA.
Qui est aussi un fleuve en Amérique du Sud.
Oui.
J'ai vu un tweet passer de quelqu'un qui disait quoi, il y a un fleuve quand il y a un fleuve, enfin il y a quelqu'un qui a appelé un fleuve Amazon et pourquoi pas une rivière PayPal ou c'est pour te dire le niveau de oh, bref.
Donc un accord a été fait notamment avec l'Union européenne pour appliquer donc un 20% de TVA sur les achats bah d'e-commerce.
C'est un des changements qui a eu lieu le 1er juillet, parce qu'il y a eu des tas de changements, enfin on va en parler. Mais c'est celui-là que j'ai noté, parce qu'effectivement, pour les gens qui ont commandé, enfin c'est surtout depuis le Brexit, pour les gens qui commandaient plus ou moins régulièrement des produits à l'étranger, hein, sur d'autres plateformes, enfin, on a cité Amazon, on peut citer eBay, ou enfin, Rakuten, ou toutes ces...
Alibaba.
Ou même, ouais, c'est ça, ou n'importe quel, même si tu achètes quelqu'un sur un autre, une boutique en ligne à l'étranger. Alors, il y a la différence entre l'Europe et les gens qui sont plus dans l'Europe, comme l'Angleterre. J'avais l'occasion de commander de temps en temps des produits en Angleterre et je payais jusqu'à il y a pas longtemps. On me proposait de pas payer la TVA, donc ça allait. Alors j'avais de la chance à la douane, parce que ça peut arriver. Ou les gens qui commandent régulièrement au Japon, ils croisent les doigts quand ça arrive à la douane. Des fois, ils peuvent se payer un petit bonus qui est plus gros que le coût de la livraison ou des produits qu'ils ont commandés. Ça peut arriver. Tandis que maintenant, au moins, c'est clair. Si le site sur lequel vous commandez, le site ou la personne chez qui vous commandez ne vous propose pas directement de rajouter 20% pour la TVA, attendez-vous à devoir la payer soit à la douane, soit au facteur qui frappera votre porte et vont dire « Vous me devez autant, vous voulez votre colis. »
Ce qui passera tout simplement, c'est que les prix vont augmenter sur la plateforme.
Voilà, donc les vendeurs vont être obligés de le signaler, voire de proposer de payer directement la TVA au moment du paiement. Quoi.
Ce qui est bizarre dans l'État, c'est qu'avant, les facteurs faisaient du contre-remboursement, c'est-à-dire que je pouvais avoir des colis et le payer au facteur qui après renvoyait de l'argent liquide. Et justement, pour éviter que les facteurs possédaient de l'argent liquide et se faisaient largement agresser, surtout dans certaines régions comme la région parisienne et autres, ils ont arrêté tout ça. Donc là, maintenant, ils vont s'y remettre. C'est bizarre.
Mais non, ils feront des bornes bleues, etc.
Alors, vu qu'on parle de cette plateforme qui porte le nom d'un fleuve, c'est ça ?
Par contre, on a parlé de la TVA, mais on a parlé aussi que le facteur pourra recevoir les frais de dédouanement aussi.
Oui, les frais de dédouanement seront ajoutés à la TVA, effectivement.
Donc, alors, faites attention quand vous faites vos achats sur des sites. Allez, en Europe, il n'y a pas de problème. Hein. Dans les sites membres de la commune d'Opéra, il n'y a pas de souci. Voilà, mais ne serait-ce qu'en Angleterre, ça commence déjà à faire des petites différences.
Alors, Jeff Bezos va partir dans l'espace. On en avait parlé avec Blue Origin, puisque donc il a quitté la direction d'Amazon pour se sacrifier.
Il s'ennuie tellement.
À son entreprise spatiale. Alors, on se rend compte, à l'heure d'aujourd'hui, on le détaillera tout à l'heure, qu'on est vraiment maintenant, un peu comme à l'époque de la guerre froide, sur une guerre à l'espace, quoi, une course à l'espace. Qui sera le premier à commercialiser,
le plus loin à s'enfuir de cette planète qui est en train de pourrir, c'est ça?
Alors, de un, oui. Mais peut-être que c'est là la grande question. Est-ce que qui sera le premier à vendre à grande échelle des places pour aller faire le tour de la Terre, ou aller tout simplement vivre sur une base spatiale, sur la Lune ou sur Mars. Alors, ici...
Je ne raconte pas les frais de douane.
Dans la course, on a donc notamment Blue Origin, qui n'était pas très connu jusqu'à l'époque, mais maintenant que Jeff Bezos décide de mettre ses mains dedans, forcément ça fait de la grosse publicité. Et ce que n'a pas fait Elon Musk, puisque Elon Musk a quand même envoyé sa Tesla, sa voiture... Il n'a pas pensé à s'envoyer lui-même.
Pas encore.
Alors que Jeff Bezos, lui, il va.
Est-ce que c'est il pas n'a plus rien à faire, le gars, il est à la retraite.
Il n'a plus rien à perdre aussi. Alors, il va partir, puisqu'il a décidé de ne pas partir tout seul. Il va partir avec Wally Funk. Est-ce que ça vous dit quelque chose ?
C'est pas un DJ ?
Non, un grand DJ qui va bientôt faire un album avec le grand Jojo. Et non, pas du tout. C'est... une participante à la mission Mercury 13, qui aurait dû faire partir la première génération d'astronautes.
Et donc Mercury 13, on est dans les années 60, voire 50.
Et donc 60 ans plus tard, elle va réaliser donc son rêve de partir dans l'espace avec Jeff Bezos. Alors elle est...
82 ans, c'est ça ?
C'est ça.
Ça sera la personne la plus âgée à être jamais allée dans... Enfin, elle n'est pas encore partie, hein. Enfin, être partie, on verra si elle revient dans l'espace. Quoique, il y a eu des chiens envoyés. Vu que les années chiens, on les compte différemment. Est-ce que peut-être que le chien était plus âgé ? Je ne sais pas.
Donc, il y aura dans cette capsule qui s'appelle The New Shepherd, donc au nom d'Alain Shepard, il y aura donc apparemment son frère et un passager mystère qui a déboursé plus de 28 millions de dollars.
Il y avait une place qui était vendue aux enchères. Et on n'a pas su, on ne sait toujours pas d'ailleurs officiellement qui a acheté cette place aux enchères. C'est pas moi.
Ça sera la grande surprise. Je vous le donnerai lors de la prochaine émission.
Grand Jojo.
J'attends encore de recevoir mon ticket.
C'est pour ça qu'il a annoncé sa retraite, le grand Jojo. Parce qu'il doit partir dans l'espace.
C'est peut-être
avec tous les albums qu'il a vendus.
Est-ce que ça serait pas Tom Cruise? Parce qu'il doit faire un film dans l'ISS.
Ouais. Il va se faire griller la priorité par les Russes. Les Russes veulent tourner un film dans l'espace avant les Américains. Donc c'est même pas la guerre à Mars ou la guerre à la Lune, c'est la guerre même à tourner un film dans l'espace. C'est terrible.
Alors, donc, Jeff Bezos prépare ce plan depuis un petit bout de temps. Et qu'est-ce qu'il apprend ? Qu'il va se faire doubler sur son vol commercial par Richard Branson.
Mmh. Oui, bah Branson, Virgin, ça fait des siècles, enfin pas des siècles, mais que c'est ça, qu'il a un projet de faire des voyages commerciaux, touristiques dans l'espace.
Donc lui va partir à bord du VSS Unity de Virgin Galactic. Mmh. Oui.
Ouais, on n'en parlait plus de Virgin, mais effectivement, c'était le pionnier, enfin le premier fou à dire « je vais faire mes propres vaisseaux spatiaux ».
Donc il sera accompagné de 2 pilotes et 4 spécialistes de mission. Alors,
ça fait peur. C'est pas assez détaillé.
Alors Elon Musk, en tout cas SpaceX ici, peut s'inquiéter un peu. Puisque...
Donc là, la course. Qui va partir le premier, qui va arriver vivant le premier et qui va revenir vivant le premier.
Bah, ce n'est pas forcément les premières fois qu'ils vont compter. Ouais. Mais plus le côté expérience des voyages en eux-mêmes. Parce que tu peux être le premier à dire « Ouais, j'étais le premier à être dans l'espace », mais si derrière, tu peux pas faire pérenniser ça, c'est fini. Ah, si tu peux pas l'exploiter, c'est fini. Mais par contre, les autres vont te regarder faire, vont dire « Ok, il a fait comme ça, ça marche pas, ou ça marche comme ça. »
C'est la communication aussi. Bah déjà, à l'époque, dans les années 50, hein, quand c'était la guerre entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest pour envoyer, on envoyait des gens dans l'espace pendant une heure ou deux. Ça ne servait pas à grand-chose non plus, mais c'était de la communication. Il fallait gagner d'un point de vue médiatique. Et encore à l'époque, il n'y avait même pas les réseaux sociaux. Maintenant, c'est ça. Quoi. C'est celui qui aura le plus d'abonnés.
Donc, le but ici, c'est de 1, envoyer des particuliers, mais également signer des contrats avec les agences spatiales.
C'est ça.
Alors, l'Europe, la NASA. Pour placer des satellites, est-ce que la Russie un jour va se passer de ces capsules qui datent, hein? Alors, on sera vigilant donc, au lancement de ces fusées, celle de Blue Origin, celle de Virgin Galactic. Et bon, pour l'instant, c'est SpaceX hein, qui a remporté le gros lot avec des capsules qui sont maintenant amarrées sur l'ISS. Donc ça, c'est vraiment le top du top. Alors... Normalement, on aurait eu l'écho des gnous après nous, mais je pense qu'ils sont déjà partis sous les tropiques.
Ils sont en train de tester le nouveau Windows 11. Non, je ne sais pas.
Alors, bah oui, j'ai 2-3 petites news Windows 11. Allez, à se débarrasser. Et il va se passer quelque chose d'incroyable, quelque chose qu'on n'a pas vu depuis des dizaines et des dizaines d'années. Windows 11 va se séparer d'un écran mythique.
Ah! Le fameux Blue Screen of Death, l'écran bleu de plantage.
Ben oui, on va plus dire BOSD du
mais
coup.
Il va être comment ? Parce que j'ai vu
enfin, la news. Si on dira BOSD, il sera black, il sera noir.
Un écran noir. Ouais.
Tu m'as l'air déçu.
Bah ouais. C'est bizarre. Ah, c'est le mode nocturne. C'est l'écran bleu, mais en mode nocturne. Alors, pour économiser le courant.
Est-ce qu'on ne fait pas de l'économie d'énergie avec ça ?
C'est pas impossible. Ah, ça serait marrant de calculer le nombre de calories dépensées par les écrans bleus de Windows depuis le début.
Alors peut-être une économie d'énergie, peut-être une économie aussi sur la fragilité de vos yeux.
Hein mm-hmm. Ah, c'est vrai parce que moi j'ai des lunettes, par exemple j'ai acheté des lunettes qui filtrent les radiations bleues des écrans. Du coup l'écran bleu, est-ce que je le vois encore ? Je ne sais pas, j'en ai plus. Je n'ai pas eu d'écran bleu depuis très très longtemps.
Alors en tout cas Windows 11... motive beaucoup de personnes à essayer d'installer le système d'exploitation sur plusieurs types. Alors, on peut retrouver des téléphones, mais également des Raspberry. Donc le dernier Raspberry Pi 4 s'est déjà démontré comme hébergeant un Windows 11.
On peut installer Windows 11 dessus ou même sur un vieux téléphone. Oui, on peut l'installer. Il ne faut pas aller plus loin. Hein. Comme j'ai dit la dernière fois, j'ai installé Windows 10 sur des vieilles, très vieilles machines qui ont plus de 15 ans. Ça s'installe. Mais c'est tout, quoi. Tu mets vraiment quelque chose dessus qui marche.
Donc, on était un peu inquiet face à ces puces TPM. Mais apparemment, ça n'empêche pas de l'installer un peu n'importe où. Donc, voilà. On va se quitter en musique. Alors, j'ai un groupe qui s'appelle The Silly Boy Blue, qui sort également un nouvel album qu'on va s'écouter.
Un groupe français, comme son nom l'indique, de Nantes.
Ah oui ?
Absolument.
Et bah oui, c'est ça. Issu d'un groupe duo nantais, Pégase. Mm-hmm. C'est ça. C'est Anna Benad Belkarim qui se lance en solo également sur ce premier album. Vous pourrez la retrouver le 24 septembre au Grand Mix de Tourcoing pour le festival Pop Factory. On va en profiter donc pour s'écouter la chanson qui s'appelle 200 Love Song. Pour notre part, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Heureusement en France. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut.
À plus.
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures.
Fin de la retransmission.
C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite.
That's what I get.